Comme l'a rappelé Julie Delalande, je suis anthropologue. Je travaille à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement, au sein de l'unité mixte de recherche PALOC, patrimoine locaux. Je travaille essentiellement dans les pays, entre guillemets, du Sud, c'est-à-dire en fait les pays en développement ou les pays émergents. J'ai travaillé essentiellement en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, en particulier sur l'alimentation et les soins de l'enfant, hein, les soins domestiques ou les soins médicaux, en tant qu'il participe de son processus de socialisation ou d'intégration plus globale à la société. Alors, à l'époque dont je vais vous parler maintenant, en 2002, je suis installé à La Paz, en Bolivie, depuis 3 ans. Je travaille dans un projet de recherche interdisciplinaire dont l'objectif est d'améliorer le suivi de la croissance et du développement de l'enfant de moins de 5 ans. C'est donc dans ce contexte que je connaissais relativement bien qu'un ami photographe installé en Bolivie me propose de faire, je cite, quelque chose d'humain et dans l'urgence pour les enfants de la rue à La Paz. Donc mon ami effectue alors des séries de reportages photographiques sur les groupes les plus précaires de la société locale. Il documente aussi bien les petits métiers de la rue que l'hôpital psychiatrique ou encore le quartier de la prison des femmes. L'initiative de mon ami est provoquée par la mort d'un enfant de la rue qu'il a tenté de sauver en le recueillant, en le conduisant à l'hôpital. Alors pour moi, faire quelque chose d'humain et dans l'urgence pour les enfants de la rue, entre guillemets, était une expérience tout à fait inédite. J'étais en effet rompu à l'anthropologie impliquée dans le développement, mais pas dans l'action humanitaire d'urgence. Je n'étais pas habitué à monter des interventions, mais à faire de la recherche en amont. Pour moi, connaître les gens, leur environnement social et culturel avant de proposer d'intervenir sur le réel est un préalable méthodologique et éthique incontournable. Et j'irais même plus, il me semble impensable d'intervenir sous quelque forme que ce soit sans l'assentiment des principaux intéressés, à savoir ce que l'on appelle les bénéficiaires dans le jargon du développement. Les défis contenus dans la proposition de mon ami étaient donc pour moi importants. Comment concilier l'urgence et l'acquisition préalable de connaissances qui permettent de mieux soutenir l'action. Quels procédés mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences de l'intervention et aux impératifs de qualité des données qui doivent en augmenter les chances de succès. C'est alors que j'ai réfléchi, à mon tour, et proposé à mon ami de se lancer dans une recherche-action participative, c'est-à-dire de mener une recherche dont la conception, les objectifs, la mise en œuvre et les retombées sont définies par ceux-là même qui sont censés en bénéficier. Pour emprunter encore une fois un mot au jargon du développement, il s'agissait de co-construire avec les enfants de la rue une action dont ils retireraient finalement les bénéfices qu'ils avaient eux-mêmes fixés. Autrement dit, la réflexion sur l'organisation sociale des enfants de la rue est indissociable d'une réflexion sur le processus de recherche lui-même. Non seulement ce processus de recherche est en soi un fournisseur constant et régulier de données, mais en plus il interroge l'anthropologue sur les conditions d'exercice de son métier. Quelles sont les implications théoriques, méthodologiques et éthiques d'une recherche-action participative avec et pour les enfants? Quelle place y occupe l'anthropologue? Quelles sont les marges de manœuvre dont il dispose vis-à-vis des enfants? Les objectifs de cette recherche sont donc confondus, indissociables et complémentaires. Il y a à la fois le désir de comprendre ce qui fonde le lien social des enfants de la rue, sachant que ces enfants vivent des situations de violence et de rupture sociale, familiale, affective et géographique souvent très profondes, mais il y a aussi la nécessité de réfléchir sur le processus de recherche qui permet justement d'approfondir l'analyse de la problématique du lien, de la violence et de la rupture que vivent les enfants. Et il y a enfin l'engagement quasi contractuel de réfléchir avec et pour les enfants sur des pistes d'amélioration possibles de leur existence quotidienne. C'est dans un lieu qu'on appelle le terreno, que mon ami a commencé son travail de photographe. À l'époque, le terme désignait une modeste baraque d'habitation, sans eau ni électricité, entourée d'un vaste terrain vierge attenant. Le terreno se trouve à El Alto, dans la banlieue de La Paz, qui se situe sur les hauts plateaux andins à 4200 mètres d'altitude. C'est sur le terreno que mon ami a fait la connaissance de Doris, une sœur péruvienne exilée politique. Elle lui a présenté son programme de réinsertion appelé Luz de Esperanza, qui est fondé sur la participation volontaire des enfants aux activités les plus simples de la vie quotidienne. C'est là que quelques enfants de la rue se retrouvaient, ou plutôt trouvaient, un refuge temporaire pour dormir, manger, se laver et tenter de se sevrer de drogue et d'alcool. Le travail d'enquête ethnographique n'a donc pas commencé par l'observation des enfants dans la rue. Les enfants n'y tenaient pas. Ils souhaitaient d'abord qu'on les prenne en photo, sur le terreno, en dehors de la rue. Il s'agissait de réaliser des portraits à travers lesquels les enfants voulaient montrer leur meilleur profil, ou plutôt leurs plaies provoquées par les bagarres de rue. Mais l'objectif fixé par les enfants à ces photos a évolué avec le temps, surtout après que nous leur avons proposé d'écrire leur histoire de vie. 15 enfants, d'un âge compris entre 9 et 15 ans, ont ainsi témoigné. Chacun revendiquait son appartenance à la bande Solitarios, les solitaires. Si tous les enfants ne savaient pas écrire, certains le pouvaient au moins en phonétique. Ils ont ainsi aidé leur père à accomplir cette tâche. L'étude des récits mériterait évidemment une communication ou un texte en soi. Mais il faut retenir ici que la plupart des enfants sont d'origine urbaine ou périurbaine et qu'ils ont fui leurs parents essentiellement à cause du climat de violence qui régnait entre eux et qui rejaillissait sur eux. Les autres ont été chassés du domicile familial, soit parce qu'ils étaient adultérins, soit parce qu'un nouveau conjoint les avait rejetés. Sans entrer plus avant dans la succession des événements qui a conduit les enfants dans la rue, tous ont en commun d'être dépendants de l'alcool et de la drogue et de partager une vie quotidienne marquée par la violence. Sur la base de ces premières données, j'ai élaboré une grille d'analyse, puis mené 5 entretiens approfondis, en face à face, auprès d'une dizaine d'enfants de la bande Solitarios. Je précise que certains n'avaient pas rejoint le programme de réinsertion Luz de Esperanza. Pour des raisons évidentes de disponibilité, de sécurité, de discrétion et de sobriété, les entretiens se sont déroulés au terreno. Les thèmes allaient du moins sensible au plus intime. Les relations sociales dans la bande, dans la rue et sur le terreno, la santé et l'alimentation, la violence et le vol, la prise de drogue et d'alcool, la situation familiale et les perspectives d'avenir. C'est à ce moment du processus de recherche que l'idée de publier un ouvrage photographique est née. Je vais vous le faire circuler. L'objectif devait être que les produits de sa vente soient réinvestis dans le programme de réinsertion auquel les enfants étaient partiellement intégrés. Mais je reviendrai plus tard sur le livre à proprement parler. Donc à ce stade, il faut retenir que le projet impliquait de compléter les récits des enfants par des observations directes dans la rue. Les observations ont parfois été menées avec les enfants, parfois sans eux. Ce que j'observais était systématiquement présenté aux enfants au terreno pour être discuté, commenté, précisé et remis en contexte. Ces séances de travail se déroulaient parfois avec un seul enfant, parfois de façon collective. Avec cette activité partagée, la dimension participative de la recherche s'est encore affermie. Alors, je vais maintenant centrer l'exposé sur les données issues de ma recherche ethnographique à proprement parler, ce qui va me permettre d'appréhender ce qui fonde le lien social des enfants de la rue et qui va me conduire à vous parler de la notion d'affinité horizontale. Je montrerai comment cette affinité horizontale s'inscrit dans le cadre d'une parenté élective qui se développe au sein d'une bande. Je reviendrai alors sur le projet de lui-même pour discuter de ses résultats et de ses limites. Alors, l'univers social des enfants de la rue tourne autour de ce qu'on appelle les pandillas, les bandes, auxquelles ils appartiennent. Leur univers spatial est centré autour des lieux que les pandillas investissent pour dormir, pour consommer de la drogue, pour boire, pour travailler, pour voler et évidemment pour manger. Ils se constituent de rues, de ponts, de berges, de parcs, de cimetières, de marchés et de décharges. Il s'agit là d'un véritable maillage qui désigne un ensemble de lieux pensés les uns par rapport aux autres et raccordés, comme on va le voir, par des pratiques quotidiennes. Les nouveaux membres d'une pandilla sont présentés et désignés comme des amis. Lorsque les relations se pérennisent, le terme de frère se substitue à celui d'ami. Les nouveaux frères parlent alors d'une famille pour désigner leur pandillas. Les enfants parlent aussi de confrérie, hermandad, ce qui accentue encore le caractère construit et organisé de la pandilla. La référence à un individu qui incarne celui ou celle qui aurait fondé la pandilla à l'origine est absente des discours. Mais les frères reconnaissent qu'ils ont toujours un chef. Celui de la bande Solitarios est reconnu comme un chef de famille ou un père par ceux qu'il appelle ses enfants. Toutefois, dans la mesure où son statut dépend de ses hauts faits, le père peut redevenir un frère à tout moment. Il n'est pas un père pour la vie, mais plutôt un père temporaire. Dans les pandillas, la filiation est éphémère. Seule la germanité est pérenne. De taille très variable, les pandillas se composent de 20 à 100 enfants. 20 à 100. Les garçons sont largement majoritaires. Ils s'adressent aux filles de la pandillas en employant le vocable de frère également. Il procède ainsi à une sorte d'écrasement du sexe qui consiste non pas à masculiniser les filles, ça n'a rien à voir, mais plutôt à les confondre ou à confondre les sexes dans une identité ou un genre inédit, comme subsumé par le statut d'enfant de la rue. La morphologie des pandillas est extrêmement mouvante en raison de la fréquence des décès liés à l'abus de drogue, d'alcool, à la violence, aux maladies, hein, les cirrhoses du foie, les pneumonies, etc. On est quand même à plus de 4000 mètres d'altitude. Et aux accidents, les chutes, les chocs contre les véhicules. Et puis, lorsqu'un conflit éclate entre pandillas rivales, les bandes s'agrandissent et diminuent une fois le calme revenu. Les solidarités se font et se défont au gré des bagarres, selon un principe de solidarité et d'hierarchie entre les pandillas. Il existe des pandillas aînés et des pandillas jeunes. Les pandillas aînés, ça donne plutôt au vol et au trafic de drogue. Les pandillas jeunes, comme les solitarios, se concentrent davantage sur la survie. Bien entendu, ces activités ne sont pas exclusives ou aussi exclusives dans la pratique. Enfin, une pandilla aînée vient souvent prêter main forte à une pandilla jeune, ce qui constitue une occasion de se droguer, de boire, mais aussi de manger ensemble. Donc, ces quelques caractéristiques montrent comment les identités individuelles et collectives se construisent dans la pandilla. Pour emprunter une expression de Philippe Descola, la pandilla sera en quelque sorte une matrice enveloppante au sein de laquelle les pères trouvent une source de sens pour vivre et développer des relations. Mais je reviendrai encore une fois sur ce point plus tard. Alors j'en viens maintenant à la question des stratégies de survie, que je vais donc aborder sous l'angle de l'affinité horizontale. Ces stratégies se déclinent de façon très concrète et quotidienne. Elles déclinent de façon très concrète et quotidienne cette forme de lien social dans un contexte de rupture et de pauvreté extrême. Je me concentrerai sur l'alimentation, le travail et le vol, la prise de drogue et de boisson, le fait de dormir et de se laver, le travail, se soigner, dans la mesure où ces pratiques nous éclairent sur la violence au quotidien. Alors, pour s'alimenter au quotidien, la formule la plus fréquente est d'organiser ce qu'on appelle un caillou, C-A-2-L-U. Le terme désigne à la fois le fait de faire la quête et le plat que l'argent de la quête permet de préparer. Il s'agit en l'occurrence d'une salade à base d'oignons, de tomates et de sardines. La salade est accommodée de petites baguettes de pain qui mesurent une quinzaine de centimètres. Chaque commensal en reçoit une moitié, toujours avec un croûton. Ce morceau de pain sert autant à pousser les aliments que de couvert pour terminer les restes de l'écuelle. Dans le caillou, recueillir de l'argent et préparer la salade sont donc des finalités confondues. À ce titre, organiser un caillou ne relève ni d'un travail ni d'un vol. Pour ces activités, il existe d'autres expressions. Pour les frères, le caillou consiste en une activité de subsistance à part entière. Lors du caillou, le rôle du père, de la pandilla, n'est pas spécifique. Il ne bénéficie pas non plus de privilèges particuliers à cette occasion, en termes de part ou de préséance. Lorsque 5 à 15 enfants de la même pandilla ont réussi à mettre un peu d'argent de côté, ils forment un groupe de commensalité. Au sein du groupe, chacun verse une somme identique dans le tronc commun pour l'achat des différents ingrédients. Les solitarios cuisinent alors leur plat favori et le consomment tous ensemble. Il arrive cependant que des frères qui n'ont pas pu contribuer soient conviés. S'instaurent alors des cycles de prêts, d'avances, de dons, de contre-dons, dont l'issue, évidemment, est complètement incertaine. Mais l'abondance du caillou n'est pas strictement proportionnelle à l'argent que les frères ont pu réunir dans la journée. Bien évidemment, elle dépend aussi de ce qu'il leur reste une fois qu'ils ont acheté l'alcool et la drogue, abondamment consommés pendant la nuit. Habituellement, en effet, les enfants préparent et mangent le caillou au réveil le matin ou en début de, ou en milieu de matinée, après avoir plus ou moins récupéré de leur courte nuit. La volonté de s'alimenter dépend donc aussi largement de leur état psychologique et physiologique. Alors, je précise que le mot, l'expression « se marquer », bon, c'est un néologisme, qui est créé par les enfants et qui signifie « s'en reprendre un ». Dans l'intention de s'enivrer plus rapidement, alors le plus rapidement et le plus fortement possible. L'expression renvoie également au marquage involontaire du corps de celui qui se cogne, qui s'érafle, qui se blesse, qui se bagarre parce qu'il a trop bu. Donc il présente alors dans sa chair les stigmates de l'alcoolique. Pour les solitarios qui dépensent la totalité du peu qu'ils ont gagné dans la drogue et la boisson, s'alimenter est donc très incertain. Il leur faut compter sur la générosité de leurs frères. En dehors du caillou, les enfants de la rue ne mangent donc pas à proprement parler. Ils se contentent, selon leur propre dire, de grappiller ce que leur donnent des passants ou des commerçants. Ou ce qu'ils volent éventuellement, quelques fruits, quelques bonbons. Une autre solution est de compter sur la générosité des riverains qui se rendent au marché, ou sur les commerçants qui jettent les produits avariés. Peuvent également tenter leur chance auprès des clients dans les petites échoppes de rue. Alors, autre néologisme, brandir la machette, machetear en espagnol. Ça veut dire faire la manche, dérober ou faire les poches. Mais contrairement au caillou, brandir la machette peut s'accompagner de violence. Il s'agit en quelque sorte de réclamer une sorte de dû à la société. Sorte de violence légitime. Cette mendicité repose tout de même sur le principe de redistribution solidaire qui fonde le caillou, puisque l'argent est remis et mutualisé à nouveau. Le caillou requiert donc une organisation certaine. Il s'agit de s'approvisionner en aliments, de préparer le plat et de trouver un endroit pour manger. Trouver un endroit à peu près sûr. C'est à ce titre que le caillou reflète, reproduit et renforce les relations d'entraide et de dépendance préexistantes entre les enfants. En plus de sa fonction nourricière, il contribue à maintenir les liens quasi-familiaux qui les unissent. La configuration sociale qui s'exprime autour du caillou est celle d'une parenté choisie, à la fois élective et sélective. À l'occasion du caillou, on peut parler de la mise en œuvre d'une parenté nourricière ou du déploiement d'un entourage nourricier plus ou moins élargi, plus ou moins mixte, mais toujours éphémère. Un autre moment stratégique pour les enfants de la rue consiste à trouver un endroit pour dormir. Un endroit qui soit abrité du vent, mais aussi de la pluie et du froid. Il faut savoir que ces petits coins dont il est question sont rares et très prisés par les bandes. On les appelle encore les lits de rivière, torrentes, parce qu'ils sont inondés par la pluie. D'une certaine façon, les enfants transforment ces abris précaires en un chez-soi éphémère. La notion de petit coin est à prendre ici comme la métaphore d'un domicile. Elle vient confirmer l'importance du partage de la résidence dans la construction des liens de germanité. Mais même si le petit coin n'est qu'un pseudo-domicile, le simple fait de le choisir, de le désigner comme tel et surtout d'y passer du temps avec d'autres contribue à la fabrication des liens entre les frères et à leur renforcement. Bien évidemment, c'est aussi pour des raisons de sécurité que les solitarios préfèrent dormir en groupe. Pour se laver ou laver leur linge, les frères comptent sur l'empathie des riverains, des commerçants, mais aussi, c'est significatif, sur les ouvriers du cimetière. Il en est de même pour l'usage des toilettes. La chance d'être dans la rue, m'a dit un enfant, la chance d'être dans la rue, c'est de connaître suffisamment de riverains qui finissent par tolérer leur présence contre de menus services, comme nettoyer les chaussures gratuitement, par exemple. Malgré les principes d'entraide, de solidarité et de redistribution mis en avant par les enfants eux-mêmes, la vie dans la rue est conditionnée par l'argent durement gagné. Il provient essentiellement d'exercices de petits métiers occasionnels. Cireur de chaussures, gardien ou laveur de voitures, laveur de poubelles, crieur de bus. Ce sont des gamins qui sont dans les bus et qui annoncent aux passagers potentiels la direction du bus. Les modalités d'accès au travail sont très variables. Tandis que les cireurs de chaussures obtiennent l'argent nécessaire à l'investissement de départ auprès de leur père PAIRS, sous la forme d'un crédit, les crieurs de bus doivent s'appuyer sur une relation de confiance avec un chauffeur adulte, ce qui est beaucoup plus aléatoire. Les frères passent régulièrement d'une activité à une autre. Pour eux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise journée de travail. Ça n'a pas de sens. Celles-ci se suivent et se ressemblent. Les gains sont individuels. Chacun travaille pour son compte. Au plus, un solitario gagne tout au plus 20 bolivianos, c'est-à-dire 2,50 € par jour. Dans ces conditions, il est difficile de faire des économies. Parfois, lorsqu'il leur reste quelques centimes, les enfants se rendent dans des salles pour jouer à ce qu'on appelle le tilintilin. Alors, le tilintilin, c'est un autre néologisme qui désigne le bruit que font les machines à jeu, les machines électroniques dans les salles de jeu. Tiling, tiling, tiling. Ils dépensent alors dans de brèves batailles virtuelles leurs modestes gains avant d'aller boire ou d'aller se droguer à nouveau. D'autres fois, lorsqu'ils ne sont pas sous l'influence de stupéfiants, il leur arrive d'acheter quelques habits d'occasion. Le vol systématique reste la spécialité de quelques bandes de jeunes plus âgés qui règnent sur certains quartiers bien délimités. Certaines sont connues pour voler sous l'effet de la drogue. Mais, pour la plupart des solitarios, le vol ne permet pas de vivre. Malgré les liens forts qui unissent la bande, le vol survient en revanche entre ses membres. Si un frère qui vole est pris par la police, il est bastonné sur place, plus rarement conduit au poste ou en prison. Mais les choses sont souvent plus compliquées. Sournoisement, il semble que les policiers participent et incitent les enfants au vol par le racket qu'ils exercent sur eux. Je passe à la prise d'alcool et de drogue. L'alcool éthylique, 80 degrés, est la boisson de base que prennent les enfants pour s'enivrer. Alcool éthylique, 80 degrés. Ils l'appellent, je cite, l'alcool potable. L'unité de mesure, c'est una cisterna, c'est-à-dire 2 litres, vaut 2,50 €, c'est-à-dire ce qu'a gagné un enfant pendant la journée. La cisterna, donc les 2 litres d'alcool éthylique, sont en vente libre dans les petits commerces de rue. Et il y a même des affiches publicitaires, j'ai oublié de prendre une photo, malheureusement, qui dit « Mets-la sur la table et bois-la ». C'est le slogan. Alors, selon ce qu'ils appellent leurs humeurs, « El sentido para tomar », les frères souhaitent s'enivrer plus ou moins durablement, rapidement, sévèrement. Ce sont les termes qu'ils emploient. Hein. L'état d'ivresse est proportionnel à la quantité d'eau mélangée à l'alcool, bien évidemment. Sauf exception, les solitarios se réunissent pour boire, chacun apportant sa participation financière. mais on n'appelle pas ça un caillou. Il leur est difficile de refuser de l'alcool au frère qui n'a pas d'argent. Celui-ci s'engage à participer davantage ou à inviter ses frères à la prochaine occasion. Alors, pour boire, les enfants tentent de s'isoler, connaissent plusieurs endroits appropriés, les cimetières, les rues ou les appendices urbains plus discrets ou délaissés par d'autres bandes. Ils en changent selon les circonstances et les dangers, notamment la présence d'autres bandes ou de la police. C'est le soir que les frères boivent le plus. Synonyme de courage, d'audace, l'alcool permet d'affronter les démons de la nuit, qu'ils soient climatiques, comme le froid, qui est glacial, ou humains, comme les bandes adverses ou les policiers corrompus. Alors je précise que le mot sec, seco, employé ici comme substantif, désigne un sommeil sans interruption lié à la pluie. C'est ça que ça veut dire. La pluie torrentielle a beau tomber, on ne se réveille pas. On a beau dormir dans un lit de rivière, quasiment, on ne se réveille pas. C'est-à-dire qu'on a... C'est un sommeil sec, ça. Il prend son sens par rapport, évidemment, au mot torrente dont je vous ai parlé, qui désigne les abris humides où dorment les enfants. Donc les frères prennent plusieurs formes de drogue. La marijuana, évidemment, la colle, qu'on appelle el volar, el tiner, et de l'éther, qu'on appelle la clefa. Il est rare, en revanche, que les solitarios s'adonnent à la cocaïne ou à ses dérivés dont les prix, évidemment, restent très élevés et dont la consommation fait l'objet d'une forte répression dans le pays même. Tandis que la marijuana est accessible auprès des réseaux de revendeurs qui sillonnent les rues, la colle et l'éther peuvent évidemment être achetés en pharmacie ou au marché noir, sans ordonnance, bien entendu. Les revendeurs de drogue qui opèrent toujours dans les mêmes zones se méfient de tout et de tous. Parce qu'il s'agit d'un commerce risqué, la revente exige de nombreuses protections et par conséquent une organisation quasi militaire. Les vendeurs appartiennent à des bandes aînées et ceux qui surveillent, armés de couteaux, appartiennent plutôt à des jeunes bandes. Ce qui est intéressant, c'est que chaque drogue a ses qualités, a ses vertus, sachant que la protection contre le froid reste un effet particulièrement recherché. Les hallucinations sont également très prisées. Elles donnent une dimension ludique à ce moment fort de la soirée. La consommation de la drogue obéit aux mêmes règles que celle de l'alcool. Achat en commun, redistribution, incitation et prise en petits groupes. Parfois, les prises de drogue et d'alcool sont simultanées. Rapidement, leurs effets conjugués plongent les enfants dans un profond coma. Ils en émergent brusquement au milieu de la nuit, pris de vomissements, de crises, de tremblements, de dérèglements intestinaux. Ils reprennent alors une dose, de l'un ou de l'autre, pour retomber dans leur léthargie. Évidemment, les enfants, pour ce qui concerne la santé, se soigner, n'associent pas la grippe, l'angine ou le rhume, qu'on appelle des refroidissements, resfrios, comme des problèmes de santé. Lorsque la toux et la fièvre sont fortes, ils prennent des infusions, des mates, du thé au citron ou encore de l'alcool. Dans ce cas, l'alcool est bu à la paille dans des petites pochettes en plastique utilisées pour les sodas qu'on vend dans les rues. Il en est tout autrement des séquelles des violences physiques suite aux bagarres entre bandes adverses. Ces bagarres surviennent surtout pendant la nuit alors que les enfants sont vulnérables compte tenu de leur état et qu'ils ne peuvent se défendre. La violence est parfois le fait de la police présentée comme toutefois plus humaine que les bandes rivales. On sait à quoi s'attendre avec les policiers. Avec les autres, on ne sait pas. Le policier, on sait qu'il va frapper avec sa massue, on sait qu'il va racketter, on sait jusqu'où il va. Lorsque les coups reçus requièrent une attention médicale d'urgence, les enfants réunissent de l'argent pour payer une partie des soins du frère blessé. Si une blessure requiert l'administration de soins à plus long terme, les solitarios s'adressent aux commerçants qui les connaissent. Ils tentent alors de bénéficier d'une aide financière ou en nature auprès des commerçants, de ceux qui sont les plus sympathiques, de ceux qui les ont vus déjà, qui s'apitoient un petit peu de leur sort. Mais en même temps, il y a énormément de... Il ne faut pas croire que c'est de la pitié qui joue nécessairement. C'est aussi le fait de voir ces gamins dans la régularité au quotidien qui crée une forme de lien. C'est pas de l'apitoiement... Et donner de l'argent, c'est pas pour s'en débarrasser. Il peut y avoir un vrai une vraie forme de lien qui se crée entre ces commerçants de proximité et ces gamins des rues. Les blessés évitent le plus souvent d'aller évidemment à l'hôpital, notamment à l'hôpital général où ils sont particulièrement mal reçus. Et là, ils emploient le mot de maltraitance. Ils disent « on y est maltraité ». Ça m'avait frappé, l'emploi de ce mot. Donc cette structure de soins est perçue comme l'antichambre de la mort. Mais quand l'opération est indispensable, il faut avancer les fonds dont les frères ne disposent pas. Et il arrive alors qu'ils soient tout simplement chassés des hôpitaux. Enfin, les enfants reçoivent parfois de l'aide, ou plutôt l'aide spontanée des médecins, qui en sortant de l'hôpital où ils travaillent, passent se faire cirer les chaussures. Distribuent alors gratuitement quelques médicaments ou des vitamines et prodiguent quelques conseils. Il arrive cependant que l'un des frères ne se réveille pas le matin, mort des suites de ses blessures, mort de froid, ou d'avoir abusé de l'alcool, de la drogue, ou des deux. Son corps est ramassé par la police, à moins qu'il ne soit recueilli par sa seule vraie famille, celle des autres enfants de la bande. Les frères se cotisent alors pour payer l'inhumation. Dans ce cas, il a alors droit à une sépulture digne, je cite, c'est-à-dire à une tombe au cimetière général, ce qui lui permet d'échapper à la fosse commune. Comme si la tombe, où figure le prénom et parfois le surnom de l'enfant mort, fixait à jamais une identité que sa courte vie lui avait sans cesse déniée. Tandis que la mort d'un frère plonge les uns dans une torpeur que seul l'alcool et la drogue pourront faire oublier l'espace de quelques heures, elle provoque chez d'autres une réflexion radicale sur le sens de la vie. Et si cette impulsion est relayée par un appui à la fois matériel, psychologique, médical, elle peut déboucher, de la vie des enfants, sur le début d'une autre existence. J'en reviens à quelques-unes de mes questions préliminaires. Comment s'opère le passage entre l'acquisition de connaissances et l'action ? La recherche mise en œuvre a-t-elle accru les chances de succès du projet de réinsertion plus générale des enfants de la rue ? Les enfants de la rue ont-ils retrouvé au moins partiellement ce qu'ils appellent leur dignité à travers cette recherche ? Alors, une première réponse est que ce ne sont pas tant les connaissances produites qui ont un effet sur le projet de réinsertion que la façon dont ces connaissances ont été acquises. Ceci se vérifie du strict point de vue de la recherche-action participative. L'action se construit dans la problématisation des faits, et la problématisation des faits se construit dans l'action. Même si, par hypothèse, je pensais dès le départ qu'il fallait connaître l'univers social des enfants de la rue avant d'agir, c'est à la demande des enfants eux-mêmes, c'est la demande des enfants eux-mêmes qui l'a validée. Même si je sentais que la question du lien social au sein de la bande était la base sur laquelle s'appuyer, ce sont les enfants qui m'ont orienté vers elle et qui m'ont permis de l'explorer. Une deuxième réponse est que l'approfondissement de la question du lien social a été progressif et itératif surtout. C'est-à-dire qu'il s'est construit dans la proposition et dans la négociation. Il y a eu d'abord des photos, puis des dessins et des histoires de vie. Cette première phase a conduit aux entretiens individuels et collectifs, puis aux observations dans la rue. Enfin, des discussions individuelles et collectives sur les observations et l'ensemble des données recueillies ont eu lieu. En parallèle, est né le projet de publier un ouvrage collectif. Et c'est ce projet qui a constitué le lien de la recherche. C'est lui qui a orienté le processus et lui a donné tout son sens. C'est lui qui incarne le mieux le lien social entre les enfants. Et c'est lui qui a en grande partie motivé les enfants de la rue à s'investir dans le projet plus général de réinsertion. Pour financer l'édition de cet ouvrage, on a lancé un système de souscription auprès de la communauté expatriée de La Passe. On a également bénéficié de l'appui de l'association des œuvres sociales de l'IRD, donc l'institut auquel j'appartiens. Certains enfants sont allés chez l'éditeur pour suivre les étapes de l'impression du livre. Par la suite, la plupart sont allés le vendre. À cette occasion, les enfants circulaient par petits groupes, se conseillaient, s'aidaient à améliorer leur présentation, tant orale que vestimentaire. Ils employaient en quelque sorte leur savoir-faire de la ville au service du projet. Pour cette étape, mon ami et moi avons préparé le terrain auprès des écoles internationales, des ambassades, des représentations consulaires, des grandes institutions internationales et des ONG locales qui pouvaient évidemment ne pas faire autre chose que l'acheter. On venait en amont, on leur disait qu'il ne fallait pas fermer la porte au nez d'enfants, peut-être qui empestaient un peu l'alcool, mais qui allaient leur vendre quelque chose. On expliquait ça aux gens des ONG, en leur disant que voilà, c'était une initiative qui était prise. Donc là, ils étaient coincés de chez coincés. Donc autant vous dire que les 500 exemplaires du premier tirage du bouquin ont été vendus, mais en quelques jours. Ça s'est vendu comme des petits pains. Et la totalité des recettes est donc évidemment revenue à l'association Luz de Esperanza, qui s'est formalisée d'ailleurs au cours du projet lui-même, sous l'égide de la sœur Doris. Elle a écrit des statuts, elle a visibilisé, si vous voulez, l'institution. Elle a demandé une aide au diocèse, elle a demandé un permis de construire pour le terreno. Si vous voulez, il y a des choses qui se sont faites simultanément, parallèlement à ce projet. J'oublie de vous dire qu'il a quand même duré 2 ans. Entre la première sollicitation de mon ami et la prise, et cette photo-ci, qui est venue à une fois les livres vendus, se sont écoulées 2 années. Pour la petite histoire, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Là, vous voyez qu'il y a de l'électricité. Pourquoi ? Parce que quand un projet marche, ça en appelle d'autres. Ça appelle des financements. C'est-à-dire que quand vous pouvez aller voir des fondations en disant que tel projet a réalisé telle activité, que les enfants ont vendu tel bouquin, que ça a rapporté tant, eh bien vous êtes crédible. Donc on est allé voir la Fondation Suez, ils ont fait un chèque faramineux, pour eux c'était rien du tout, ce qui a permis d'installer l'eau et l'électricité. Et d'ailleurs ils ont été plutôt sympas, parce qu'ils ne font pas payer l'eau dans un pays où l'eau est très chère, car privatisée. Alors il est clair que les enfants se sont trouvés valorisés, individuellement et en tant que groupe, dans et par l'édition et la vente de ce livre. Indépendamment du contenu qu'ils approuvaient, quand même important de le rappeler, les enfants se sont, chacun à leur mesure, activement réapproprié la fabrication du livre. Ils ont discuté et négocié la mise en page, le choix des photos et l'imbrication du texte à l'ensemble. Le statut de l'image est très important à comprendre dans le projet. L'image est une première étape, un point de départ qui renvoie à une volonté de montrer ce qui n'est pas montrable. Il s'agit là d'une réponse par les enfants eux-mêmes au déni d'existence sociale des enfants de la rue. Par les photos et grâce à elles, ils contestent clairement leur statut d'intouchable. Le statut de l'observation est également très important. L'observation renvoie à la volonté des enfants de ne plus vouloir se cacher dans le quotidien. L'observation est complémentaire aux photos. Elle illustre une relation engagée entre les enfants et moi. Une relation fondée sur le respect et la confiance et qui n'a pas respect et la confiance et qui n'a pas peur de se risquer, selon leur expression. Le statut de la parole est également essentiel. Elle renvoie à la volonté d'expliquer, ou plus exactement de s'expliquer. La parole est une réponse directe au déni d'action dont sont frappés les enfants de la rue dans les discours bien-pensants. Pour les enfants, prendre la parole est un premier pas vers la capacité de prendre en charge son propre destin. Le statut du texte, enfin, renvoie à la volonté de fixer les choses. Il est une réponse au déni d'histoire dont souffrent les enfants de la rue. L'écrit manifeste leur souhait d'intégration à la société à travers la maîtrise d'une aptitude habituelle pour des enfants de leur âge. Écrire, restituer, partager par l'écriture. Avec le recul, on ne peut qu'apprécier l'importance de ces différentes dimensions de la valorisation dans le projet plus global de réinsertion de l'enfant. La question du dortoir des filles s'est posé très rapidement. Alors là, j'anticipe une question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de relations sexuelles, de relations affectives entre filles et garçons? Parce qu'ils ne souhaitaient pas. Ils n'ont pas voulu. Dans cet ouvrage, ils n'ont pas voulu qu'on souhaite qu'on aborde les questions. Alors j'ai des données, j'ai des choses, mais ils n'ont pas voulu qu'on aborde ces questions. La seule chose que je peux vous dire, pour ne pas les trahir, c'est que c'est vrai que Sœur Doris n'a pas été un acteur passif dans ce processus, mais ils ont assez rapidement décidé d'investir une partie des fonds dans la construction d'un dortoir pour les filles, qu'on appelle les frères, vous avez bien compris. Vous connaissez les compagnons en France, hein, les charcutiers, les fromagers, etc. Mais il n'y a pas de compagnonnes, on les appelle les compagnons. C'est un statut. Il n'y a pas de une fille qui fait partie de la corporation des compagnons est appelée un compagnon. Évidemment, c'est vraiment un effet boule de neige, puisque toujours dans la foulée du projet, donc de l'argent a été obtenu pour payer des menuisiers. Des menuisiers qui sont venus donner des cours aux enfants qui le souhaitaient. Donc, vous vous souvenez de... alors lui, c'est Petit Mulet, Burrito, c'est celui qui est mort. Vous avez vu son... Voilà, vous avez vu malheureusement son... Voilà. Donc avant qu'il ne meure, il a pu assister à quelques cours de menuiserie. Voilà, il rêvait d'être menuisier. Évidemment, ce qu'il fabrique, c'est essentiellement des cercueils pour eux-mêmes. Vous voyez une chape de ciment qui est assez grande. Ils ont eu l'idée d'investir dans une serre pour donc faire pousser des fleurs et des fleurs qui seraient évidemment des fleurs destinées à être vendues au cimetière général. Donc on reste dans un registre très morbide. Et l'apprentissage scolaire, surtout de la part des plus jeunes, qui ont souhaitaient regagner l'école, mais sentaient bien qu'ils ne pouvaient pas débarquer comme ça à l'école. Donc, le projet faisait venir, alors là, sur une base de volontaires, des maîtres et des maîtresses d'école qui venaient faire des cours de rattrapage aux enfants, avant qu'ils puissent regagner l'école. Pour ceux qui réussissaient à sortir, évidemment, de la drogue et de l'alcool, ce qui n'était évidemment pas gagné. Donc là, on constate que ce sont surtout des plus jeunes qui manifestaient cette volonté de se scolariser. Les plus âgés, quand je dis plus âgés, c'est à partir de 12-13 ans, préféraient avoir accès à un apprentissage direct. Enfin, je veux dire, manuel, menuisier, ou alors s'occuper des fleurs, construire. Je précise que cette salle... n'était pas sur le terreno, elle était juste à côté. Il y avait un petit hameau et comme les écoles sont occupées à mi-temps, vous savez, c'est des demi-journées d'école, donc il y a eu un arrangement avec les instituteurs et les institutrices pour que l'école soit récupérée soit le matin, soit l'après-midi, une fois sur deux, pour que les enfants du projet puissent y aller. Donc vous voyez la nature du terrain. Quand je vous dis que c'est un climat, que c'est rugueux, donc là, on est vraiment à l'extrémité de la banlieue de La Paz. On est vraiment aux confins des confins de El Alto. On a un volcan derrière qui fait plus de 6000 mètres. Là, on est à 4002. C'est un froid glacial. Vous voyez, le sol, hein, c'est vraiment de la caillasse. C'est ingrat. On ne peut pas faire pousser grand-chose ici. Hein. Voilà, donc il y a une balle avec un moment de jeu. Donc un copain en train de veiller un mourant. Quand je disais qu'ils construisaient des cercueils, ils ont également construit des lits. Ces lits ont été construits par les enfants. Bon, là, vous voyez la préparation d'un caillou, mais à table. Et Sœur Doris tenait régulièrement à s'entretenir en face à face avec les enfants, faire un petit point avec eux, sachant qu'elle n'était pas du tout prosélyte. Hein. Elle-même avait un parcours très compliqué. Elle a fui le Pérou à l'époque de la grande violence et des confrontations brutales entre le Sentier Lumineux, l'armée et les populations civiles. Autrement dit, elle était une religieuse, certes, mais pas une religieuse prosélyte, une religieuse pragmatique. Elle s'est plutôt servie de son statut de religieux pour obtenir le droit d'avoir une concession, d'avoir l'aval du diocèse pour un certain nombre de choses, mais elle ne demandait pas de contrepartie en termes de pratique religieuse ou d'adhésion particulière. Hein. Non, simplement, pour elle, c'était son chemin à elle que d'accompagner ses enfants. Je vais conclure un mot sur les... Donc ça, c'est une photo qui a été prise bien plus tard. Ce sont des enfants qui s'en sont sortis, qui ont 17-18 ans, qui s'en sont sortis et qui sont restés au terreno pour accueillir les nouveaux. Ils sont un peu devenus des chefs de projet, si vous voulez. Ils ont abandonné alcool, drogue, etc. Je crois qu'il y en a un entre-temps qui a rechuté et qui est mort. Un autre qui a disparu dans la nature. Mais ils ont sur les 50 que j'ai connus, il y en a peut-être une petite dizaine qui sont encore, d'une façon ou d'une autre, rattachés au projet ou qui sont en vie aujourd'hui. Hein. Faut quand même se mettre dans l'idée qu'on est dans des cycles de vie et de mort extrêmement rapides. On n'est pas dans la pérennité absolue. Hein. Bon. Alors, au vu de ce que je viens de vous décrire, qu'est-ce qui permet de mieux comprendre le lien social entre les enfants de la rue et la place qui joue la violence, ou plutôt les différentes formes de violence? Alors, pas simple. Premier point, malgré la grande précarité de l'existence dans la rue, force est de constater le caractère construit et organisé des liens qui unissent les enfants, notamment à travers la mise en œuvre de stratégies de survie quotidiennement répétées. Ça, je crois que vous l'avez bien compris. La notion de bande repose sur la réalisation d'activités concrètes et la création simultanée de liens de parenté. Bon. L'un venant renforcer l'autre. Et j'entends ici par lien de parenté le sens plus général qu'on lui donne, à savoir un réseau de relations interpersonnelles socialement reconnues, centrées sur ego. C'est-à-dire que là, je ne parle pas comme Alain Verdioux de consanguinité ou d'alliance, non. Il s'agit de relations interpersonnelles socialement reconnues, centrées sur ego. Voilà, c'est la personne qui décide que. Ça, c'est la définition du lien de parenté la plus générale que vous puissiez avoir, qui est donnée par Laurent Barry, BA de ZRY. Il y a un PDF sur un glossaire de parenté qui est très utile, que vous pouvez télécharger sur Internet. Vous tapez Laurent Barry, parenté, et ça a été publié dans L'Homme, et vous avez un glossaire de parenté très utile. Deuxième point, même si ces relations ne sont pas fondées sur des liens d'alliance et de consanguinité réelle, entre guillemets, qui sont donc le modèle dominant, local, les relations au sein de la pandilla instaurent bien un autre lien de parenté, exprimé d'ailleurs comme tel par les enfants. C'est la raison pour laquelle ces relations peuvent être interprétées comme une forme de parenté élective. Et là, je reprends l'expression d'Agnès Fine, dont vous avez dû entendre parler. Parenté élective qui fait écho à la notion d'affinité élective, selon la célèbre formule de Goethe que j'ai reprise à mon compte pour la détourner. Alors, à condition d'y adjoindre l'adjectif horizontal, évidemment. Il faut dire que les frères sont sortis de leur famille d'origine. En témoigne les surnoms qu'ils portent tous, hein, qui est une nouvelle personnalité sociale qu'ils acquièrent et qu'on leur donne. Ces surnoms sont les vecteurs d'une nouvelle identité. Ils inscrivent les enfants dans un autre type de lien que celui de la filiation verticale. Et ces surnoms les accompagnent jusqu'à la mort. Troisième point, l'affinité désigne ici les liens qui unissent et incluent les enfants de la rue, qu'ils soient filles ou garçons, dans un réseau de relations interpersonnelles au terme d'un processus de germanité élective. Donc ils deviennent frères et sœurs de leur choix. C'est leur choix. L'affinité est horizontale dans la mesure où, dans le registre de la parenté, les frères n'ont pas de lien de sang. Oui, strictement dit. Elle l'est également parce que les relations interpersonnelles au sein de la bande se définissent par rapport à une seule génération, même si les frères sont d'âge différent. L'unique affinité verticale concerne la référence au chef de bande, reconnu comme un père temporaire, mais il n'est que temporaire. Par ailleurs, l'écrasement du genre, qui participe de la création de ces liens de germanité élective, présente la particularité de s'exprimer dans une terminologie exclusivement masculine. Bon, ça, on en a moultement parlé. Les frères sont tous sortis de leur famille d'origine, donc en témoignent encore une fois les surnoms qu'ils portent. Alors, dans le cas des solitarios, la bande ou la famille n'est pas une institution sociale préexistante, mais un réseau de parenté que les enfants construisent et activent progressivement au jour le jour. Parmi les activités qui participent de ce processus, l'acte de nourrir, de se nourrir ou de manger ensemble est particulièrement important. Il en est de même, comme on l'a vu, pour les pratiques de soins, les modalités de résidence, etc. De nombreuses études anthropologiques sur les familles recomposées, notamment, établissent le fait que le fait de vivre ensemble joue un rôle essentiel pour fabriquer de la parenté. Là, il faut quand même insister là-dessus. Et alors, pour conclure, je dirais simplement que l'exemple des enfants de la rue montre, de manière extrême, il est vrai, comment le partage d'un quotidien jalonné de stratégies de survie et de violence au pluriel, sans cesse répétée, va de pair avec une parenté élective dont le contenu s'appuie sur l'affinité horizontale qui se construit elle-même à partir de liens de germanité. Voilà.